Bonjour à toutes et tous. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo en début d'année pour célébrer ce qu'il s'est passé dans le podcast en 2023 avec vous et pour vous partager un petit peu les projets pour 2024. Alors, tout d'abord, j'avais envie de remercier vous qui écoutez le podcast parce que le plus important pour moi, évidemment, ça me passionne d'aller interviewer les paysans, les paysannes et toutes les personnes qui participent à la transition agroécologique. Mais le plus important, c'est que je sache que ça apporte quelque chose au monde. Et c'est pour ça que c'est super important que vous m'envoyiez des petits messages, que vous me laissiez des commentaires sur les plateformes d'écoute. Et aussi, je tiens à remercier mes tout premiers tipeurs, puisque j'ai ouvert un compte Tipeee début octobre. Voilà, je me suis autorisée enfin à recevoir un soutien financier pour ce podcast, puisque j'aimerais que ce projet soit en partie rémunérateur pour moi. Et depuis, j'ai pu, depuis début octobre 2023, j'ai pu collecter exactement 416 euros. Et je tenais à remercier les 20 personnes qui ont contribué sur mon compte Tipeee, et notamment Anna, Vanessa, Nicolas, Charlotte, Peggy, Sabine, Pascal, Maël, Chloé, Laurent, à qui je vais bientôt envoyer les contreparties de leurs dons. Et évidemment, si vous souhaitez me faire un petit cadeau de Noël, il n'est pas trop tard. Et le lien de mon compte Tipeee est en description. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2023? Déjà, ce qui est important à savoir, c'est que, vous le savez sûrement, en février, on a décidé d'arrêter l'école d'agroécologie voyageuse en équipe. On a pris cette décision collectivement. Et en juin 2023, on a célébré l'unification de l'école lors d'un festival à la ferme des Mahouagites, où toute la communauté des agronomes et de l'école a pu célébrer la fin de ce cycle si important. En parallèle, donc avant août 2023, on a terminé les accompagnements des derniers participants et participantes de l'école. En tout, on a accompagné 42 personnes à apprendre l'agroécologie par l'expérience et à trouver leur place dans le vivant. Donc ça, c'est vraiment super important, j'avais envie de vous le partager parce que c'est une manière aussi de célébrer ça. Alors, 2023 aura été une année riche en fin de cycle, en petit deuil, et la fin de l'école, pour moi, a laissé un grand vide puisque c'était vraiment un projet auquel j'ai consacré ma vie ces 4 dernières années, et ce vide laisse place à la possibilité pour moi de prendre du temps pour moi et de m'ancrer dans un lieu. Vous avez vu, je suis dans une yourte en Bretagne, j'ai enfin mon petit chez moi et c'est super important pour moi de pouvoir avoir un lieu d'ancrage même si je continue à être nomade. Et ce vide laisse place aussi à la possibilité de me consacrer à mon projet de cœur, ce podcast. En 2023, j'ai continué à travers le podcast à explorer la diversité des manières de faire l'agroécologie. Et comme c'est moi qui ai créé ce podcast, évidemment, c'est ma vision de l'agroécologie qui est développée et chaque manière, chaque personne a une vision de l'agroécologie qui est différente. Donc, si c'était quelqu'un d'autre qui avait créé ce podcast, je pense que les sujets abordés seraient un petit peu différents ou la manière de les aborder serait peut-être différente. Et ma vision de l'agroécologie, c'est quoi ? C'est un cheminement pour peu à peu permettre à notre agriculture de nous nourrir, de nous soigner, tout en régénérant le vivant à l'extérieur, les paysages, les sols, les écosystèmes et à l'intérieur de nous. Il n'y a pas d'agroécologie parfaite, il n'y a pas de ferme parfaite. Il n'y a que des modèles plus ou moins inspirants que l'on a envie de suivre, dont on a envie de s'inspirer. Quand une personne inspirante se met sur mon chemin, j'ai envie de mettre en lumière les messages, les pratiques qu'elle a à partager et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ce podcast. Quand vous écoutez chaque épisode, pour moi, c'est important que vous puissiez vous dire, ah bah tiens, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça me donne envie de mettre en œuvre que j'ai juste un pot de fleurs, un balcon ou une ferme de 1000 hectares. À la fin de cette vidéo, vous aurez droit à un petit mash-up ou une combinaison d'extraits des 23 épisodes de 2023 pour célébrer ensemble vraiment les messages clés qui ont été partagés par les 23 personnes que j'ai interviewées. Alors c'est pas exactement 23, d'ailleurs c'est plutôt 19 parce que il y a eu des épisodes qui se sont faits en plusieurs... C'était des sagas, donc j'ai interviewé une personne pendant 2 à 3 épisodes. Alors déjà, ce que j'avais envie de dire, c'est que j'ai été émerveillée en 2023 par la relation entre Sarah, qui a cofondé l'école d'agroécologie voyageuse avec moi en 2020, que j'avais accompagnée avant ça, et elle s'est installée en tant que paysanne à 25 ans. Et ce qui est super, c'est la relation qu'elle a avec son grand-père, dont elle a repris la ferme. Je vous laisse découvrir ça dans l'épisode. Il y a eu un podcast qui a été fait en direct du Brésil par Marine, qui était à l'époque notre directrice du développement de l'école, avec Gudrun Götzsch, la fille de Hans Götzsch, qui a créé notamment une école pour transformer les produits agroforestiers, une école de cuisine. Un autre épisode a été fait avec Sébastien Anger, paysan québécois passionné par la route des fleurs et ce que les fleurs nous donnent comme message en tant que paysan. Et cet épisode a été réalisé par Mélodie, qui était étudiante de la promo 3. Avec Mylène Billion-Laroute, qui était à l'époque... alors quand je l'ai interviewée, elle venait de terminer la promo 2. Et j'ai appris avec elle la puissance du bourgeon et de la gémothérapie. Cette idée que le bourgeon, c'est vraiment... L'étymologie, c'est bourg. C'est-à-dire, c'est que le bourgeon contient vraiment tout ce qui va permettre à une branche de se développer, et donc énormément de principes actifs guérisseurs. Et c'est pour ça que Mylène a lancé son entreprise S'éveille, et elle a commencé ses premières petites fioles de gémothérapie. Avec Agnès Poirier, qui m'a accueillie chez elle en région parisienne, j'ai réalisé la responsabilité que c'est de faire un film documentaire sur le monde paysan et sur l'impact du monde paysan, de son histoire sur la société tout entière. J'ai été accueillie dans le jardin des merveilles de Rémi Kulik, dans le Tarn, un de mes youtubeurs jardiniers préférés, qui a une relation d'amour avec ses oies et avec toutes les plantes qu'il a dans son jardin et qu'il a arrêté de compter. J'ai découvert aussi les modèles économiques à taille humaine sans aide PAC, avec des élevages de 7 truies ou 15 chèvres chez Noémie Calais et chez Jean-Yves Reloux. Et j'ai réalisé aussi la relation que ces éleveurs ont avec leurs animaux tout au long de leur vie. Et cette relation est aussi importante que la manière dont ces éleveurs acceptent la mort des animaux. Il y a une pomme de pin qui vient de tomber de mon poêle, d'où le petit bruit que l'on vient d'entendre. J'ai découvert comment le paysagisme et les beaux-arts peuvent être le terreau fertile pour petit à petit devenir paysanne fleuriste ou paysanne éleveuse chez Lucie en Dordogne ou chez Astrid en Corrèze. J'ai vu la puissance du castor et de l'humain quand il s'y relie au même niveau à la ferme du Grand Laval dans la Drôme, et j'ai même participé à réparer un petit peu un ouvrage castor mimétique dans la ferme. En montant l'interview qu'Athénaïs, alors animatrice du réseau de ferme de l'école d'agroécologie voyageuse, a faite avec le tiers-lieu L'Arbre, j'ai réalisé comment un projet pouvait très rapidement devenir un lieu de retrouvailles, de liens humains, de résilience, et en particulier quand des fermes sont intégrées à un tiers-lieu, ça apporte vraiment une aide importante. Enfin, avec la promo des Agroutes, on a exploré tout ce qu'il y a autour du terme paysan, paysanne. Ça veut dire quoi être paysan, paysanne aujourd'hui? C'était vraiment un épisode qui m'a beaucoup appris sur ma vision de ce que c'est d'être paysan ou paysanne et la vision d'autres personnes. Alors, j'avais aussi envie de vous partager un peu ma vision de l'agroécologie aujourd'hui, sachant que je ne suis pas... Alors, je suis ingénieur agronome, mais je ne suis pas... comment dire, économiste agricole, je ne suis pas spécialiste de l'agriculture ou de l'agroécologie. Tout ce que je fais, c'est aller à la rencontre de personnes qui œuvrent pour le vivant, pour l'agroécologie. Et du coup, en allant dans les fermes, en travaillant avec eux, ça me permet d'avoir une vision assez globale de ce qui se passe dans les fermes, sur le terrain vraiment, avec des personnes qui sont, comme on dit en anglais, des grassroots people, donc des gens qui sont vraiment les mains dans la terre. Et du coup, j'avais plutôt envie de vous donner cette vision un peu du terrain. Et moi, ce que je vois, c'est que l'agroécologie est en plein déploiement, que ça champignonne partout, dans les cœurs, dans les têtes et dans la mise en œuvre avec les mains. Et avant ce déploiement de l'agroécologie, il y a un énorme élan de retour à la terre. Et qu'il s'agisse de l'agroforesterie de tout type, et notamment de la syntropie, de l'élevage régénératif, les fermes de plusieurs dizaines, centaines d'hectares qui régénèrent leur sol en arrêtant de travailler leur sol, qui couvrent leur sol, qui réintègrent l'élevage dans des fermes qui auparavant étaient céréalières. On a aussi énormément de pépinières très riches qui se développent. Évidemment, le maraîchage sur sol vivant, on ne le nomme plus, c'est tellement évident maintenant. Toutes les fermes aussi qui ont une relation à l'animal qui devient vraiment très profonde, une relation aussi à l'animal avec une relation à la mort, à l'abattage, aux manières d'abattre les animaux. On peut parler aussi de la réintégration des poulaillers mobiles et de l'élevage de poules pondeuses. Alors ça a été très très difficile par rapport à la grippe aviaire, mais il y a aussi tout un mouvement de désobéissance qui se met en œuvre pour lutter contre le système qui a tendance à empêcher ces manières de déployer l'agroécologie, une agriculture véritablement vivante. Et justement, c'est de ça dont je voulais vous parler, c'est que même si toutes ces manières de déployer l'agroécologie sont de plus en plus fortes et qu'il y a un véritable élan et qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui veulent déployer l'agroécologie, et ben, c'est comme si le monde n'était pas prêt à accueillir ça. Je veux dire par là que les structures d'accompagnement, les lois, tout ça n'est pas prêt à accueillir des systèmes qui sont véritablement ultra diversifiés. Je vous invite à me dire en commentaire si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi. Moi, c'est simplement ma vision. Cette vision que bah, quand une personne veut s'installer avec une forêt-jardin, des poules pondeuses, c'est un peu ce que j'aimerais faire, des races anciennes, réintégrer les coqs dans la basse-cour, faire naître des poussins chez soi, faire une alimentation ultra locale. Et bah, tout ça, c'est presque comme si c'était un ovni pour les structures et ouais, le monde aujourd'hui qui était plutôt habitué à avoir des modèles assez carrés et où il y avait une seule production. Et bah, tout ça demande une sacrée adaptation. Et un petit message à toutes les fermes qui aujourd'hui créent ces modèles ultra vivants, ultra diversifiés, les fermes collectives aussi, c'est des modèles qui demandent beaucoup d'énergie. Et vraiment, prenez du temps pour vous, prenez le temps de vous régénérer, prenez le temps de prendre soin à l'intérieur, et quelle que soit la taille de votre système, quel que soit ce que vous faites, c'est déjà super, parce que vous le faites avec le cœur. J'en suis sûre. Et justement, j'aimerais terminer avec cette phrase de Hila Prigogine. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement. Elle est prix Nobel de chimie et elle a dit, en anglais, Small islands of coherence in a sea of chaos have the capacity to lift the entire system. Ça veut dire, des petits îlots de cohérence dans une mer de chaos ont la capacité de faire s'élever le système entier. Ces petits îlots de cohérence sont des microcosmes du futur qui essayent d'émerger. Alors ça, c'est Otto Scharmer qui a dit ça. Et je suis vraiment d'accord avec lui. C'est que ces petits îlots de cohérence, qu'ils soient des petits jardins, des très grosses fermes, qui tentent d'être cohérentes, vraiment, c'est des choses que vous faites avec le cœur et vous sentez que c'est juste pour vous, juste pour le monde. Ces îlots de cohérence, en fait, plus ils émergent et plus ils se connectent entre eux, plus ils existent, et bien tout ça, ça fait changer le système petit à petit. Et je pense que Hervé Covès ne dirait pas le contraire et il le dirait avec d'autres mots, évidemment. Et alors, quelle est la plus petite île de cohérence? C'est votre cœur. Hein. Même si vous n'avez pas de ferme, pas encore de jardin, que vous avez juste une passion grandissante pour l'agroécologie, et bien là, ici, dans votre cœur, dans votre manière de prendre soin de vous, de prendre soin de vos relations, c'est déjà le plus petit îlot de cohérence. Et c'est pas facile tous les jours. Alors, les projets pour 2024. Donc, les épisodes à venir, il y en a plein, j'ai plein d'idées et j'ai pas encore contacté toutes les personnes dont je vais vous parler. Ah oui, ça c'est important aussi, c'est que comme je suis maintenant en Bretagne, eh ben, il se peut qu'il y ait une grande partie, enfin pas une grande partie, mais une partie plus importante des épisodes qui se passent pas très loin de la Bretagne, en Bretagne. Voilà, donc je m'excuse pour ça. Heureusement, je continue à être en partie nomade, et donc, enfin, c'est parce que j'ai envie d'aller à la rencontre des paysans et des paysannes que je garde une part de nomadisme dans ma vie. Alors, je vais aller à la rencontre de Sophie Nedelec, éleveuse de race rustique en Bretagne. J'avais déjà fait une vidéo avec elle pour Ferme d'Avenir, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Ferme d'Avenir, et j'aimerais retourner la voir pour approfondir certains sujets avec elle dans le podcast. J'aimerais aller rencontrer Liv Aden, paysanne bretonne qui cultive des fleurs pour faire des couleurs végétales. J'aimerais réaliser un reportage dans le réseau des fermes paysannes et sauvages dans la Drôme et avec le collectif des naturalistes des terres. Je souhaite aller rencontrer Jigmé, néo-paysan, cuisinier, influenceur dans le Périgord. J'ai été le rencontrer cet été, au printemps. Il faisait très chaud, mais c'était le printemps. Et j'aimerais vraiment faire un épisode avec lui. Je souhaite aller voir Pierre Girard, youtubeur, qui va à la rencontre d'agriculteurs et qui est aussi journaliste pour Arte. Et voilà, il est vraiment passionnant, j'adore sa vision de l'agroécologie. J'ai prévu un épisode avec Nicolas Bourdeau, qui a réalisé un mémoire sur l'agriculture syntropique. Je souhaite aller rencontrer Bastian, gardien de Carmater, pionnier de la permaculture dans le Tarn. Frédéric Thomas, pionnier de l'agriculture de conservation en Sologne, paysan et formateur en agriculture de conservation. Christophe Declerc, un ami céréalier passionné par le vivant et qui souhaite un jour que sa ferme accueille des jeunes, notamment par la création d'espaces tests agricoles. Marie, d'Humus Libre, paysanne herboriste, guide naturaliste, passionnée par l'autonomie alimentaire, les trognes, la cueillette de plantes sauvages et les algues, et notamment comment cuisiner les algues. J'aimerais aller voir Marie-France, qu'on appelle aussi Marie Branche, qui a créé des enfants et des arbres, et j'espère pouvoir la rencontrer lors d'une plantation cet hiver. J'aimerais aller voir François Robin, arboriculteur de fruits délicieux, qui pratique la permaculture et l'agriculture syntropique. Et cet hiver, je vais aller à Marseille rencontrer Louis Fouché, médecin réanimateur passionné par les relations humaines, le vivant et la permaculture. Et juste après, j'irai à Genève, à côté de Genève, rencontrer Mathias Fahé, avec qui j'avais déjà fait un épisode, qui gère deux fermes arboricoles en agriculture biologique et qui est passionné par le vivant. On va approfondir avec lui cette question: Où mettre notre énergie dans un monde dont des pans entiers s'effondrent et d'autres émergent? J'aimerais aussi aller voir des paysans qui participent à la marque végétale locale, une marque qui garantit une production de végétaux sauvages qui se sont développés dans une région écologique bien particulière. J'aimerais aller voir la ferme collective de la Tournerie, située en Limousin, où 11 personnes pratiquent l'agroécologie. Et j'aimerais aussi aller voir Maëla Naël, qui a écrit un livre sur les fermes collectives et qui est notamment en train de s'installer. J'aimerais aller rencontrer Jocelyne Porcher, dont les travaux commencent à être vraiment très connus, ses travaux sur l'importance de la relation de travail avec l'animal d'élevage et aussi la manière dont on met à mort les animaux. J'aimerais aller rencontrer une ferme du réseau des paysans de nature, le GAEC de Mont-Lahuc, leur vision de l'agroécologie et leur lien avec les peuples racines, Audrey et Lauriane, éleveuses en pâturage tournant dynamique en Centre-Bretagne, qui sont au cœur du film d'Agnès Poirier, L'Installation. J'aimerais aller voir Perrine Bulgheroni, cofondatrice de la ferme du Bec-et-Loin, qui a de nouveaux projets aujourd'hui, et peut-être faire un mini partenariat avec Nicolas Mérieux en retravaillant les interviews de paysannes réalisées par Axel, une super nana que j'ai rencontrée et qui a participé au Farm Tour. Alors, il se peut que j'aille voir des fermes agroécologiques en Europe et j'ai une petite question à vous poser, c'est si vous connaissez des fermes très proches du littoral, ça m'intéresse parce que je vais réaliser quelques épisodes sur comment on s'adapte quand on est proche du littoral dans une ferme en agroécologie. Et comment s'adapte notamment à l'élévation du niveau de la mer, à la présence du sel, etc. etc. Et enfin, je vais être interviewée par Mélodie durant mon passage à Marseille. Mélodie aimerait m'interviewer sur ma vision de l'agroécologie et de l'entrepreneuriat. Une dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est que le podcast n'a pas d'intérêt pour moi s'il ne crée pas du lien entre vous. Et c'est pour ça que j'ai créé ma lettre, le Mycélien, ma lettre d'inspiration pour un nouveau récit de l'agroécologie. Et dans le Mycélien, vous trouverez notamment des idées de chantiers participatifs, d'événements dans des fermes où vous pourrez vous retrouver, où vous pourrez mettre les mains dans la terre et ne pas rester derrière une vidéo YouTube. Et pour vous abonner, le lien est en description de cette vidéo ou du podcast. Alors maintenant, j'aimerais vous entendre, ou plutôt vous lire. Et ce que je vous propose, c'est de répondre à une ou plusieurs de ces questions. Parce que c'est important pour moi d'avoir un petit retour de votre part. J'aimerais vraiment créer une communauté autour de ce podcast, et du coup, plus il y a de commentaires, plus ça permet de tisser des liens. Alors, quel épisode avez-vous écouté en 2023 ? Quel épisode vous a le plus touché, enseigné? Est-ce que le podcast vous donne envie d'œuvrer avec la terre, avec le vivant? Est-ce que le podcast a déclenché des élans d'action chez vous? Et enfin, de quel sujet vous aimeriez que je parle en 2023? C'est parti pour le petit zapping 2023. Je vous souhaite vraiment de passer une superbe année 2023, bien ancrée dans vos valeurs, dans votre cœur, dans l'écoute de tout ce qui vous entoure, humain et non humain, et de vraiment faire ce qui est juste pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.
Pour toi, c'est quoi alors l'agroforesterie? Enfin, comment tu l'as apprise et comment tu la pratiques?
Pour moi, c'est la cultivation des espèces différentes, respectant chaque stratification,
chaque strat,
et ouais. Voilà, c'est important d'avoir des aliments pour les plantes, non? Mm-hmm. Pas seulement pour nous, mais aussi pour les plantes. Donc il faut planter aussi pour tailler, et pour avoir la nourriture, la nutrition pour la terre. Et d'avoir aussi biodiversité.
Plus on va augmenter la couverture végétale, plus on va être dans une relation à la Terre meilleure, plus on va adresser des enjeux climatiques de façon positive. Fait que je pense que d'aller de créer un système où on va potentiellement recevoir un revenu de 20% okay, sur un espace d'un an, exemple un an, pour moi, ça va être essentiel. T'sais? Puis qu'on va venir aussi accompagner l'agriculteur dans la qualité du flux, okay, des flux de carbone, azote, okay, dans sa relation qu'il construit avec le sol. T'sais? Parce qu'actuellement, la réalité actuelle, c'est que quand je me compare à mes voisins, okay, quand je mets des couverts végétaux, okay, puis que je fais, entre autres, j'appelle ça des placements en vers de terre et champignons, okay, t'sais? Bon, ben, les dividendes annuels, ils apparaissent pas l'année 1, ils apparaissent l'année 5, OK?
Là, je vais parler de la terre, en fait. C'est vraiment ce truc marron noir ou sablonneuse, où il y a tellement de types différents. De voir progressivement la terre s'enrichir, de voir que ça sent de mieux en mieux, la terre doivent sentir un peu, même sucré, un petit peu sucré, un peu bon, quoi, comme du bon foin. Mm. Il faut que ça sente de la vie. Mm. Si ça stagne, si ça sent de pourriture, il y a un souci quelque part. Donc, à force de le toucher, à force de le creuser, à force de tirer les racines des fois, quand je dois arracher une plante, je dis plus mauvaise herbe, mais c'est juste une plante qui pousse dans le mauvais endroit, au mauvais moment, en fait.
Donc, pour toi?
Pour moi.
Moi, quand j'ai fait la dernière moisson, donc le film sur mes parents, les petites fermes, comme celles de mes parents, c'était fini. C'était... D'ailleurs, la dernière phrase du film, je dis... Les petits paysans disparaissent, les petits agriculteurs disparaissent, mais moi je dis souvent, je suis fière d'être fille de paysan. Et donc vraiment, c'était très fort hein, dans les années 90, cette sensation que, voilà, c'était cette petite paysannerie, parce que mes parents étaient en polyculture, faisaient de la polyculture élevage dans le Morvan, donc ces petites fermes, c'était fini. Donc non, jamais à ce moment-là, je me suis dit que j'allais m'installer, d'autant plus que nos parents nous ont vraiment poussés à faire des études.
Enfin, mon idée d'enfant de départ, c'était d'avoir une ferme avec des animaux, et pour gagner de l'argent, pas les tuer, mais les peindre et vendre des peintures. Ça, c'était mon rêve d'enfant. Et j'avais partagé ça avec ma mère, et elle était en mode « oui, c'est mignon !»
Rechercher le beau par la sensibilité, ça rend heureux et ça peut réconcilier l'agriculture et la société. Et en fait, ça répond quand même un peu à « oh, le beau, c'est pas très utile ». Alors déjà, dans le beau, ce qu'il dit Jean-Luc, c'est que c'est ça, rechercher le beau par la sensibilité. Bon, je pense qu'on l'a un peu abordé. C'est retrouver cette part sensible en nous, retrouver une connexion à nos émotions pour dire « ça, c'est beau, ça, c'est harmonieux, ça me parle ».
Pour moi, un bourgeon, c'est, oui, comme tu disais, cette notion de bourg, donc c'est vraiment la racine latine du bourgeon. Et il y a vraiment cette accumulation j'aime bien ce concentré d'énergie qu'on retrouve dans, et j'aime bien cette notion de petitesse. Et quand on met aussi un bourgeon dans le creux de sa main, rien que de sentir, on sent même pas en fait le poids, mais de se dire que oh, ça vibre à l'intérieur et puis que ça se forme en hiver, là où, comme tu l'as dit en introduction, tout paraît inerte. Et ouais, ça représente tout ça, une pierre précieuse. Et je pense qu'aussi, bah, justement, pour faire le pont, on n'observe pas aussi, enfin, on ne prend pas le temps d'observer les bourgeons, d'aller à leur rencontre. Parce que voilà, ouais, y a l'automne, on voit les feuilles, l'hiver, bon, on est un peu chez nous aussi, pas trop envie de sortir. Et après, au printemps, hop, on sort, mais on voit déjà les feuilles, les fleurs.
Mmh. Et en fait, on a un impact au-delà de sa propre installation sur les gens. Et c'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de transmissions au-delà de la famille. Sur ça, on avait aussi un BPROA qui est venu la semaine dernière. On a un lycée qui vient demain. après-demain. J'avais quand même envie d'être dans le milieu rural, puis après dans le conseil, mais pas dans l'installation, parce que bah, mes grands-parents, je les ai vus beaucoup galérer aussi, et eux n'avaient pas envie du tout que quelqu'un dans la famille reprenne, donc ça a été très dur au début d'insister pour s'installer, et ça a été parfois un peu conflictuel, mais aujourd'hui, on vit une super installation familiale avec beaucoup de transmission, surtout avec mon grand-père, et on passe vraiment des moments géniaux, donc je regrette pas d'avoir insisté. Et là, au début, il avait un peu peur que la paille ça marche pas, que le non-travail du sol ça marche pas. Et dans son jardin, là, son jardin entièrement paillé.
Nous, les vrais facteurs qui nous ont aidés, qui nous aident encore énormément, c'est quand même vraiment les fermes, quoi. Parce que par exemple, rénover une grange, quand t'as pas le matériel, on a quand même beaucoup de potentiel à proximité, quoi. Mmh. On peut amener un godet de cailloux en 5 minutes parce que voilà. C'est hyper facile, quoi. Ouais. Alors ça fait partie des trucs qui vraiment nous ont aidés à créer le lieu. Ça c'était un peu pratico-pratique, mais c'est quand même essentiel. On avait déjà un lieu aussi, le corps de ferme qu'on loue, on n'a pas eu vraiment à le chercher, on savait déjà que c'était là que ça allait se passer, et ça c'est hyper facilitant. Et après, une fois que t'as ça, le vrai enjeu et le truc le plus dur, c'est de créer le collectif, et puis on n'a jamais gagné là-dessus. Tu veux pas prétendre que ça y est, on a un collectif hyper solide qui sera toujours présent et que les gens sont toujours motivés par l'assaut, mais nous c'était vraiment réussir à fédérer.
Et puis je me rends compte que je peux faire des trucs avec mon corps, parce que j'ai beaucoup travaillé avec ma tête jusqu'à présent. Et donc, je peux mettre mon corps en mouvement. Et mon corps, il est vachement intelligent, il sait faire plein de trucs. Et le soir, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens formidables. Et j'ai appris des gestes. J'ai vu des paysages très, très accueillants, très nourriciers et très vivants. Voilà. Et maintenant, c'est ce que je me disais l'autre jour, la carte de France, elle est devenue plus vivante pour moi. C'est plus une carte à la verticale sur un mur, c'est il y a des gens qui habitent par-ci, des gens qui habitent par-là, des fermes.
En fait, à la base, je voulais travailler dans l'environnement, je me rappelle dire ça ado, dans l'environnement, et je m'imaginais plutôt, travailler dans une réserve naturelle ou être animateur nature, comme ça. Et finalement, en découvrant l'agriculture, je me suis aussi figuré que la paysannerie, c'était quand même la principale manière d'aménager le paysage, c'était la principale entre guillemets d'interagir avec l'environnement. Mais on va dire qu'on a une ferme qui est très adaptée à la culture paysanne, parce qu'effectivement elle est très hétérogène dans ses natures de sol, donc ce qui nous permet aussi de valoriser tous les espaces avec les différentes activités qu'on a, les bois, les prairies humides, les zones superficielles, les bonnes terres. On arrive à valoriser un petit peu tout. Si on faisait que des cultures, on serait bien embêté. En fait, le salaire des salariés, dans notre vision, est un objectif de la ferme, c'est pas une charge.
Une fois que cette forêt va un petit peu se refermer et que je vais manquer de lumière, il n'y aura plus qu'à éclaircir certains arbres, faire des trognes, ouvrir des clairières. Mais l'idée, c'est vraiment de transformer ce jardin en forêt totalement, puisque là, ici, on est sur les causes du Quercy, c'est hyper sec, hyper sableux, hyper rocailleux. Ça ne tient pas le sec l'été, et j'ai besoin que la matière organique du sol augmente un petit peu, j'ai besoin que ça se transforme en forêt pour avoir une meilleure résilience par rapport à l'eau. La liste de plantes, elle était tellement énorme qu'au bout d'un moment, je me suis dit à quoi ça sert de compter, en fait. Il arrive un moment où il y en a tellement que c'est trop complexe, c'est trop long à faire et je vois pas l'intérêt de compter. Je suis pas trop dans les chiffres, c'est des questions où on me demande, tu vois, pour la chaîne YouTube, je sais pas exactement combien j'ai d'abonnés, je sais pas exactement combien j'ai de vues sur mes vidéos. Je partage, je cultive, je multiplie, mais je compte pas.
J'ai été quasiment à aucune manifestation du mouvement Les Soulèvements de la Terre, et pourtant j'ai l'impression de m'être manifestée, de m'être soulevée autrement en créant cette école, en allant planter des arbres qui font que la terre s'accumule et se soulève, et finalement j'ai l'impression qu'il y a un soulèvement visible dans les médias et il y a un soulèvement invisible sous terre par tous ces paysans, ces paysannes, ces écolieux comme celui où on est ici, qui se plantent et qui, comme un gland, font se soulever la terre.
Et créer de l'humus.
Mmh.
Cette compréhension que le vivant était très important, J'avais ça vraiment en moi quand j'avais 24 ans, justement. C'est pour ça que ça résonne avec le livre de Camille Etienne.
Oui, on peut être propriétaire, d'ailleurs, de fait. Par exemple, là, je peux dire que je suis propriétaire de ces terres. Mais on est propriétaire en tant que gardien. Si chacun, on avait un petit fragment, un petit morceau de paysage et qu'on est gardien de ce paysage, ça veut dire qu'on aurait un grand, grand, grand paysage en bonne santé et extrêmement fertile.
Et ouais, il y a cette notion de sensible, je trouve, de sensibilité. Et après, ça dépend sur quel aspect tu souhaites axer ta sensibilité ou sur quel aspect, naturellement, ta sensibilité est portée. Et du coup, je pense que c'est en là que c'est la définition est genre propre à chacun, chacune dans ses pratiques.
Dès que tu marches et que le soleil il est là, tu sais que le nord il est là, tu sais que l'ombre projetée va être là, donc tu sais que tu vas mettre ta clôture comme ça et tu l'as pas réfléchi quoi.
Exactement.
C'est le sens de, je sais pas comment dire, du fait que t'évolues dans un contexte, un milieu, un environnement. C'est un peu un truc voilà acquis au fil de l'expérience quoi.
Quand même un pouvoir hein, d'agir en conscience, en connaissance et cette intuition et qui nous rend assez libres dans nos choix. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on œuvre tous, c'est qu'on est dans une espèce aussi de culture de la de la liberté. D'être libre de pouvoir se mettre à l'ombre, de manger des fruits, de pouvoir circuler, de pouvoir interagir avec les autres.
La mission de notre génération, là, de nouveaux éleveurs, nouvelles éleveuses, c'est peut-être d'accepter ces affects-là et de se demander quelle est la nécessité. Vraiment, quand on a tué un animal de sa propre main, on se rend compte du poids, de la charge de cet acte-là et qu'on ne peut pas faire ça de manière anodine, surtout si c'est un animal qu'on connaît, qu'on a regardé dans les yeux pendant un an, deux ans, parfois plus, quand c'est le cas d'une truie, donc un animal reproducteur avec qui on se projette pendant des années, avec qui on travaille au quotidien pendant des années, qu'on gratouille, qu'on caresse. Que ce soit la mort accidentelle, d'ailleurs, on en parle. Hein, dans le livre, il y a la mort de Merveille, qui était ma truie préférée, que j'avais décidé de ne jamais tuer, parce qu'elle, c'était impossible. Je ne voyais absolument pas comment j'allais parvenir à vivre avec le poids de sa mort, si je la lui donnais.
J'ai plus ce besoin d'aller me nourrir tellement ailleurs, parce que je me sens tellement reliée ici, et que je n'ai même plus peur. C'est-à-dire qu'on parlait de la mort, on parlait de perdre quelqu'un, de perdre un amour, ou d'avoir un changement brutal dans sa vie. Et ben, ce lien si fort fait que l'écosystème se réorganise, moi y compris. C'est-à-dire que l'amour, justement, puisque l'amour est multiplié par ce vivant intense autour, que... Ouais, les choses sont... Il y a quelque chose de la... Pas de la sécurité, parce que c'est pas tellement le mot, mais en tout cas d'une sorte de...
Résilience,
et puis d'assurance aussi. Ce nomadisme, moi, j'adore, parce que je disais qu'aujourd'hui, je ne bouge plus, donc je voyage dans mon propre paysage. Donc les vaches me font découvrir... par les chemins qu'elles ouvrent, le pistage, on parlait de pistage hier avec Baptiste Morisot, mais je suis leur trace. Donc je suis amenée, moi, à voyager dans ces milieux qu'elles ouvrent, que je découvre, comme elles le découvrent, mais on découvre en même temps, mais elles m'ouvrent la voie.
Qu'est-ce qu'on entend par communication animale, en fait? Ça, c'est important. Parce que les éleveurs ne se rendent pas compte qu'au fond, ils communiquent déjà. On va, par exemple, se rapprocher d'un cheval ou d'une vache et puis sentir une douleur au niveau du ventre. Et je trouve que la plupart des éleveurs ont suffisamment de discernement pour savoir si finalement cette douleur va leur appartenir ou si ça appartient à la vache. Et peut-être sans en avoir conscience, ils vont se dire « Ah tiens, ma vache aujourd'hui, elle est pas bien, elle a mal au ventre ». On a des poules qu'on laisse en liberté et on a des renards, on a beaucoup de renards. Mais en fait, on a un chat un petit peu particulier et qui mène en fait, qui fait le lien entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et il y a vraiment un pacte et une conduite en fait. Du coup, on n'est pas embêté par les renards. Mais nous, on les embête pas, les renards. Et on leur donne de l'eau, par exemple. Enfin, on fait attention à préserver leur environnement. Donc, il y a moyen de négocier avec les animaux. Si on n'est pas habitué à la communication animale, on peut poser cette intention le soir avant de se coucher et se mettre en lien avec les rapaces qu'on a l'habitude de voir au-dessus de chez soi.
En fait, ce qu'on peut voir, c'est que la pluie va aux endroits où il y a de la végétation pérenne. Et tout ça, c'est assez logique. Donc, végétation pérenne, c'est les arbres et les prairies, puisqu'on a des plantes qui ont des systèmes racinaires très profonds et qui peuvent ne pas tomber en panne d'eau et continuer à générer des points froids qui vont permettre de capter la pluie. À Carcassonne, ils ont broyé côte à côte 4 moissonneuses. Au bout de 48 heures, ils ont vu un orage noir qui est sorti de la montagne noire et qui leur a foncé droit dessus. Ils ont pris 40 mm. Et moi, j'étais sur mon PC le soir parce que je m'intéresse beaucoup à où tombe la pluie. Et je disais, ils ont dû démarrer les moissons à Carcassonne. Notamment quand les arbres ont été coupés à minuit, j'y étais et j'essaie d'expliquer aux gendarmes un peu le réchauffement climatique. Enfin, ça me soulage parce que c'est difficile d'être conscient des choses et de ne pas pouvoir les partager. Mmh. Je vois que les gendarmes comprennent aussi ce qu'on leur raconte. J'ai beaucoup de corridors écologiques avec des répisylves de bord de rivière. Je suis en parcelle en moyenne à 3 hectares. Donc c'est un site relativement riche écologiquement.
Et la truite en fait est en train de recoloniser les ruisseaux dans le coin grâce au Grand Laval parce que tout arrive à nicher, à faire des petits ici quoi. Donc même les pêcheurs sont heureux parce qu'ils voient qu'ici en fait le poisson arrive à revenir parce qu'on leur a recréé leur habitat. En fait le castor quand il faisait ses barrages c'était parce qu'en fait il modifie l'habitat pour avoir suffisamment d'eau pour être à l'abri. Comme il est amphibie, tu vois quand il est dans ses petites bassines là, de 40 cm de profondeur, il n'y a personne qui peut aller l'attaquer. Parce que dans la flotte, c'est la seule grosse bébête qui patauge dans l'eau, le loup ne peut pas aller l'attaquer, tout ça ne peut aller l'embêter. Et en fait, en refaisant monter la rivière, donc il la remet à niveau, donc il réhydrate la terre autour. En faisant ça, du coup, l'eau, elle est ralentie à des endroits. Donc ça, tu vois, sur le côté, ça va faire des endroits où ça va toujours être rapide. Donc on n'a pas perdu cet habitat-là, mais on en a créé des nouveaux. Même un truc qui est vieux, enfin des habitats qui sont anciens, qui sont vraiment ultra exigeants, il leur faut des vieilles cavités à terreaux, des trucs que tu trouves sur des vieilles forêts de centaines d'années et tout. Bah, comme ici, ils ont conservé les trognes de leurs mûriers, qu'ils ont des vieux chênes au fond qu'ils n'ont jamais coupés. Je connais pas d'espèces plus indicatrices de la santé du milieu pour ces habitats-là que ces espèces-là, tu vois. Les gens, ils viennent même maintenant se balader avec des jumelles. T'as tous les ornithos de la Drôme l'hiver qui viennent ici parce que c'est le seul coin où t'as des oiseaux hivernants dans la plaine de Valence, c'est ici. Enfin, une ferme a suscité un engouement, mais les gens, juste, ils font le tour de la ferme là. Ils sont extrêmement heureux. Et les gens, tu vois, leur balade du week-end, c'est de venir faire le tour de la ferme.
Bah, la meilleure façon de connaître des arbres, c'est de les semer, de les planter et de les voir grandir. Ça meuble bien une vie pendant au bout d'une trentaine d'années quand même. Et puis c'est gratifiant possible, les arbres. Le problème chez les humains, c'est qu'on est tous à bosser dans des usines ou à faire un travail qui s'efface le lendemain ou qui va s'effacer rapidement à un moment ou à un autre, qui fait qu'on n'a jamais le cumul de ce qu'on a fait. On ne voit pas le travail, une construction de quelque chose. Alors qu'avec les arbres, c'est absolument l'opposé parce que non seulement tous les arbres qu'on plante, a priori, si on occupe bien, vont devenir des arbres, mais en plus, ils sont autonomes. C'est-à-dire que le gland qu'on a mis qui fait 3 grammes, 30 ans après, c'est un arbre qui fait 300 kilos, quoi. Il a un rôle que je n'avais pas présumé au départ, c'est d'armer le sol en quelque sorte. Parce qu'il y a bambou et arbres, et les arbres, quand il y a des tempêtes, ils s'arrachent facilement sur un sol très humide comme ça, qui est mou. Et le fait qu'il y a des bambous qui résistent à l'humidité et qui structurent le sol avec leur rhizome, ça augmente drôlement la résistance au vent des arbres et d'autre part la résistance du sol au piétinement par exemple.